Alors, je voudrais d'abord signaler que l'essentiel, enfin une bonne partie de ce que je vais dire, est due aux informations que m'ont donné les gens de tous les services techniques et j'ai même prélevé un peu des services administratifs. Donc je voudrais vraiment les honorer ici et les remercier de leur contribution et de leur savoir-faire. Donc je vais déjà, grâce à quelques éléments de réflexion sur les réflexions sur les techniques de détection, voir un peu sur des exemples significatifs les besoins qu'on va avoir dans le futur sur les différents services. Et je terminerai par quelques réflexions générales sur l'évolution de nos environnements et sur l'organisation et les services généraux. Donc, quelques réflexions ont été faites récemment sur les techniques de détection. Évidemment, ça ne couvre pas tous les besoins en services techniques, mais c'est assez représentatif de l'évolution des besoins. Donc, on développe, on couvre une quantité absolument extraordinaire de moyens de détection pour les particules et les différents phénomènes physiques qui sont considérés dans les expériences. Et soit on veut améliorer les caractéristiques actuelles, et un point important, c'est le coût qui revient assez fréquemment dans ces améliorations, mais on a aussi des nouvelles technologies qui doivent être explorées. Grosso modo, on peut dire comme ça que les compétences techniques dont on a besoin pour réaliser ces objectifs-là, on peut dire globalement qu'ils existent dans les services techniques, et ça permet essentiellement de développer des prototypes, de faire des réalisations mécaniques, etc., d'aller jusqu'au contrôle commande, de faire la liaison à l'informatique. Alors, je prends deux, trois exemples rapidement qui sont vraiment des exemples qui montrent qu'est-ce qu'on peut apporter dans notre laboratoire. Donc, par exemple, dans le cadre des évolutions futures du LHC, le super LHC, on envisage une évolution de la calorimétrie qui consiste essentiellement, en l'occurrence, à une amélioration de l'électronique de lecture avec des caractéristiques très évolué des performances de ce qui sera fait, mais évidemment avec les contraintes extérieures qui ne changent pas, puisqu'on ne prévoit pas de changer le détecteur lui-même. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'intervenir uniquement sur les cartes d'électronique. Des éléments qui peuvent être intéressants pour le laboratoire, c'est la participation dans le domaine de l'astrophysique à la radiodétection. Là aussi, c'est un domaine nouveau pour le laboratoire, donc ça veut dire intervenir sur des techniques de détection qu'on ne connaît pas, donc il faut un peu s'impliquer dans la connaissance. Là aussi, c'est de la participation au niveau électronique. Pour les évolutions de Nemo vers Super Nemo, évidemment, on a besoin de travailler sur des domaines, par exemple, extrêmement intéressant sur la mécanique pour qualifier des matériaux à très très bas bruit de radiation, et puis des mécanismes d'instrumentation et de détection qui sont eux-mêmes à très basse radioactivité, avec exploration sur différentes voies. Évidemment, une grande catégorie d'outils pour la détection, c'est tout ce qui concerne les détecteurs au silicium pixelisés en mode Geiger. Et là, on a toute une batterie en fait d'applications potentielles à ce domaine-là. Et on va démarrer des études sérieuses pour faire de la qualification et de l'étude de ce type de détecteur qui prendra une place prépondérante dans l'avenir. Donc tout l'accompagnement sur ces techniques de photodétection au silicium, fait l'objet en ce moment de projets de R&D qui démarrent et qui sont très, très porteurs et pour lesquels on espère en fait des très bons résultats, mais qui vont demander pas mal de travail de caractérisation et d'intégration avec l'électronique. aussi dans la toujours dans la cosmologie, les technologies sur l'extension pour fabriquer des caméras dans différents domaines de longueur d'onde aussi vont demander des travaux extrêmement coordonnés dans différentes disciplines techniques, la mécanique, l'optique, l'électronique, le contrôle-commande. Donc, quelque chose qui est aussi sur l'évolution des caractéristiques des TPC, mais ça, je vais un peu passer vite. Donc, avant de rentrer un peu dans le vif, on voit que sur ces quelques exemples, qui sont une petite partie des problèmes technologiques, on voit que les évolutions et les développements qu'on peut avoir envie de faire concernent un peu tous les services techniques. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir un peu partout dans tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on peut analyser sur les besoins en compétences. Alors, je vais passer extrêmement rapidement sur les études sur les accélérateurs, puisque on a eu des développements extrêmement complets et détaillés sur la participation du LAL aux prochains accélérateurs qui vont venir dans notre proche ou plus lointain futur. Donc, on a vu que ça a impliqué des développements tout à fait spécifiques pour lesquels le labo a d'ores et déjà montré son extrême compétence et son extrême attractivité en fait sur les grands programmes internationaux du futur. Et on peut en citer quelques-uns dont on a vu extrêmement de caractéristiques dans ces deux jours, donc je vais certainement pas redétailler ça. Donc on a parlé des coupleurs de puissance à la fois pour XFEL qui est du futur proche et pour l'ILC qui est du futur plus lointain. Toute la technologie autour des canons et des photo-injecteurs où là on est potentiellement fournisseur en fait d'un grand nombre d'applications qui vont jusqu'au biomédical dans les développements dans des projets internationaux et notre savoir-faire en fait sur les technologies à la fois de construction et de réglage de ces objets-là en fait et nous a créé une réputation internationale extrêmement forte et on verra que ça nous pose un problème de management. On a vu aussi dans la semaine les sources de positrons polarisées pour par exemple pour l'ILC, donc qui est aussi là un projet extrêmement porteur et où on pourrait intervenir à un endroit extrêmement central dans la machine. Évidemment, c'est un projet considérable. On a un peu une grande tentation de rentrer dans ce genre de sujet parce que c'est passionnant. On a des compétences pour le faire et c'est extrêmement intéressant. Donc, en gros, je pourrais résumer ça par un ensemble de défis que les compétences en développement accélérateur doivent relever. Il faut évidemment d'abord et toujours continuer les projets dans lesquels on est impliqué, et ça c'est fondamental, mais on a vu l'importance que pouvait avoir de recréer un site expérimental au LAL, d'abord pour continuer, poursuivre et renouveler les compétences qu'on avait par le passé, et le fait d'avoir un instrument à domicile, par exemple, pour des besoins de formation des futurs chercheurs ou ingénieurs au labo est un élément fondamental. Il y a toutes les techniques d'accélération émergente, laser plasma, et tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exposé de Gérard. Et le point important, et là qui va nous demander pas mal de travail de management et de coordination et de réflexion, il faut maîtriser les équilibres entre deux demandes qui peuvent en apparence paraître contradictoires, qui sont les demandes de construction, par exemple, d'objets que l'on sait déjà faire et pour lesquels on a une grande demande et qui est vraiment en constante augmentation. Et puis, l'enrichissement de nos domaines de compétences par une très forte activité de R&D. Et donc, notre problématique maintenant, c'est de trouver le juste équilibre. Et évidemment, si on est capable d'obtenir un accroissement de nos ressources en personnel dans ces domaines-là, ça nous aidera considérablement. Donc ça, c'est un de nos objectifs. Si on passe maintenant l'activité de mécanique, qui est très directement connectée aux études sur les accélérateurs, je dirais que les compétences qui sont demandées aux mécaniciens, en général, sont, on pourrait dire, en mutation en ce moment, parce que les technologies, là aussi, sont en évolution, et les nouvelles technologies dont on va avoir besoin pour l'instrumentation dont je viens de parler, en fait, vont demander soit un approfondissement, soit le passage à des nouvelles technologies. Tous ces domaines de compétences sont déjà très actifs au laboratoire et il est important, je dirais, d'avoir vraiment un maintien et une consolidation de ces composantes qui vont devenir de plus en plus importantes, comme toutes les techniques de brasage et de soudure, avec toutes les différentes technologies très, très sophistiquées qu'on peut utiliser, avec les conditions sur tout ce qui est canon, cavité sous vide, etc., qui sont de plus en plus exigeantes. Les besoins, on va voir ça souvent, par exemple, dans les relations avec les industriels, de développer de plus en plus des procédés de tests systématiques et des mécanismes de relations avec l'industrie. Tout ce qui est cette problématique de liaison avec l'industrie est vraiment quelque chose qui apparaît de plus en plus systématique dans nos activités et va elle-même entraîner une migration, une mutation en fait de nos connaissances, et vraiment une consolidation de tous les mécanismes de dialogue avec l'industrie. Côté matériaux, on a vu les besoins pour SuperNemo, les études de surface ou vide, qui sont eux aussi fondamentaux pour les études accélérateurs, et les mécaniques de précision. Alors évidemment, on a en gros terminé les très grosses constructions et une tendance lourde est vers la sous-traitance à l'industrie. Et on a vu un peu les problèmes d'ingénierie qui se posent. Et je peux faire tout de suite une connexion aux grilles de calcul dont je reparlerai tout à l'heure. Donc un élément absolument fondamental dans la mécanique qui est déjà très largement exploité, c'est les relations avec l'industrie, pour déléguer à l'industrie avec une collaboration aussi étroite que possible, car on a vu dans plusieurs exemples que c'est pas simplement l'industrie qui nous amène une fabrication, mais c'est aussi nous qui amenons des procédés, des savoir-faire, des technologies que souvent les industriels ne connaissent pas. Donc il y a ce dialogue bidirectionnel qu'il est important de cultiver. Au niveau de l'électronique, on a vu un peu les tendances, donc je résumerai ça en disant que autrefois on avait le détecteur, on avait les éléments de la lecture, la numérisation, l'informatique, et de plus en plus on intègre les différents niveaux jusqu'à obtenir en fait de façon totalement intégrée la détection, la lecture, la numérisation pour avoir, et peut-être même le traitement de l'information directement. Donc ça, c'est la tendance, par exemple, qu'on peut observer dans les détecteurs pour l'ILC. Évidemment, tout ça n'est pas magique, et même si on sait le faire à peu près, il y a encore des gros problèmes technologiques, donc de longues études à réaliser. Un des éléments clés, justement, compte tenu de ces très très hautes technologies, très sophistiquées, et de la problématique d'obtenir des experts pour gérer ces compétences-là, c'est l'utilisation de plus en plus forte de structures communes au niveau de l'IN2P3. Alors, il y en a qui sont déjà fonctionnelles au niveau de la réalisation de blocs fonctionnels et de l'IAO-CAO, dont on a déjà parlé. Et puis, on mène en ce moment une grande réflexion qui est vraiment en cours. Donc, je ne peux pas en dire énormément. Simplement, c'est quelque chose qui va déboucher très, très prochainement pour étudier les conditions dans lesquelles des pôles de microélectronique pourraient s'installer au niveau de l'IN2P3 afin de mutualiser les moyens et les compétences dans des endroits spécialisés qu'on pourrait appeler des pôles. Et le modèle d'organisation qui est actuellement en cours de constitution, donc je ne peux pas actuellement décrire ce modèle d'organisation, est étudié extrêmement profondément, puisque les enjeux sur l'organisation du service et sur les relations au projet de physique sont considérables. Donc c'est un sujet de réflexion en ce moment très, très important. Donc, Ces réflexions sur l'augmentation de la complexité ont été déjà données, donc je vais passer. Le métier d'électronicien est, je dirais, en évolution constante. Mais ça, je n'ai pas trop de soucis pour ça, parce qu'on constate de fait aujourd'hui que la veille technologique, tous les éléments de poursuite est effectivement en place, et on n'a pas trop de soucis à se faire. Par contre, Les mécanismes qui mettent en jeu, par exemple, la qualité de la politique de recrutement ou les aspects de management, d'organisation de services sont très, très sérieux dans cette problématique, parce que les évolutions, par exemple, vers les aspects système vont être très importants, et il faut être très attentif à ça. L'informatique, on a entendu un mot-clé un peu partout, qui sont les grilles de calcul. C'est évidemment un élément structurant considérable dans la discipline de l'informatique. Et sans les technologies, après, sur les méthodes liées aux méthodologies, on peut dire que en gros on est à la fin d'un cycle, et ces méthodologies sont en place, et donc il y a un suivi sur ce. Voilà. Donc, un mot extrêmement rapide sur les grilles de calcul, qui mériterait probablement un exposé en elle-même. Je vous rappelle que la grille de calcul, c'est une infrastructure mondiale partagée par des communautés d'utilisateurs. Actuellement, il y a deux telles organisations interopérables, une aux États-Unis et une qui est partie de l'Europe et qui maintenant concerne le reste du monde, et qui est déjà actuellement utilisé par un très grand nombre d'expériences et de disciplines scientifiques comme le biomédical, la science de la Terre, etc. Donc ça, la technologie, je dirais, est en place. Parmi les grands défis qui restent à traiter, c'est la distribution et la gestion, en fait, des ressources à distribuer pour traiter. Un premier exemple d'une telle participation à ces grilles est la mise en place de la grille de recherche en Île-de-France, qui est un nœud au départ institué pour les équipements sur les calculs sur le LHC, mais pas seulement, et qui est en fait étendu à d'autres domaines. Bon, je passe sur les besoins de bases de données, parce que c'est un élément dont on ne va pas avoir le temps de discuter. Un petit mot très rapide sur un besoin qui réapparaît. En fait, c'est le besoin de faire des calculs pour QCD. Donc, est-ce qu'on est capable de s'organiser avec, de monter une collaboration? Donc, c'est des études qui sont en cours, et on essaye de participer à une opération, en fait, qui relancerait l'exploitation d'une machine italienne qui est l'APE Next. Et c'est des collaborations qui sont en train de se monter. Je passe sur ce transparent-là parce que je voudrais arriver un peu à ma conclusion qui concerne un point important sur l'environnement, les problèmes d'organisation et les services généraux. Disons que les mécanismes de mise en partage des compétences sont très importants. Ça concerne beaucoup de domaines de technologie. On a vu les pôles de microélectronique, les grilles de calcul, la cryogénie. Et ça, c'est une tendance lourde, en fait, de partager les ressources techniques et les compétences. Une caractéristique qu'on a vue, je crois, un peu partout, c'est la généralisation des approches de conduite de projet et sur la qualité qui vont devenir absolument prépondérants, à la fois par ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la constitution de pôles implique une gestion de projet extrêmement stricte, et puis on a vu aussi que l'implication des industriels est partout. Et donc ces savoir-faire sur les approches conduites de projet et qualité deviennent absolument fondamentaux. Et si on rajoute là-dessus l'importance des procédures dues à nos évolutions de financement, on voit bien que c'est des mécanismes auxquels on ne peut plus échapper et sur lesquels il va falloir investir lourdement, à la fois pour et qui signalent d'ailleurs que les services administratifs, qui l'étaient déjà, mais vont l'être de plus en plus, et on a besoin de réfléchir sur comment, grâce aux politiques de recrutement, on va s'équiper ou on va consolider en fait les compétences dont on va avoir besoin dans le futur très proche. Donc les compétences système en général, donc c'est tout ce qui est assemblage de systèmes, constitution, conception de système. On a parlé qualité conduite de projet, la magnétique, on vient d'en parler, des éléments sur l'optique et les lasers, les mesures et les tests qui sont fondamentaux quand on a une relation avec des industriels, et donc tout ce qui est procédure administrative de relation avec les industriels. Voilà. Et donc la formation permanente, je voulais citer ça ici, va rester toujours essentielle. Voilà, merci à tous.
Merci Christian.